Flamme Parpa numéro 6, rencontre le 6 août 2014 avec Mattia Denis au jardin de la fondation Calouste Gulbenkian à Lisbonne.
Donc on peut peut-être commencer par là. Oui. Est-ce que, c'est pas vraiment une question, mais tu vois, essayer de parler un peu autour de ça et pourquoi la philo, et est-ce que c'est juste la philo qui m'intéresse ou c'est la littérature en général, ou est-ce qu'il y a des auteurs vraiment que tu sur lesquels tu reviens fréquemment ou qui sont tes auteurs de base et tes grandes références quoi.
Bon, je pense que la philo c'est apprendre dans le contexte de la pensée en général, donc c'est plus la philo, la littérature, l'anthropologie, l'ethnologie, les essais. Ah, tout ça, ça m'intéresse, je n'ai pas de spécificité. Comme je n'ai pas étudié, je ne suis pas un académicien, je suis libre à moi de choisir dans tout ça. Comme dans... Je pense que j'ai un peu la même idée que l'utilisation de toutes ces pensées qui sont d'autres gens, qui est fantastique et accessible. En plus, on est dans une époque où c'est vraiment accessible. C'est un peu comme Montaigne faisait, il prend, il coupe, il fait du montage, il s'en sert pour sa propre pensée, puis pour essayer de transformer sa vie en quelque chose de plus intéressant, peut-être, je sais pas. Et puis, c'est dans le même sens les podcasts ou les disques audio, ça te permet en plus, alors ça c'est vraiment génial, c'est d'avoir accès à quelque chose que moi j'ai jamais eu accès vraiment, c'est à pouvoir voir des conférences ou des cours de gens qui sont exceptionnels. Donc, ça, c'est vraiment génial. En plus, pas forcément vivant. Donc,
oui, c'est,
et puis, c'est une pensée plus vivante.
Ouais. Oui, non, mais pour reprendre, c'est un peu l'idée que je me fais aussi de toi, c'est que tu es quand même quelqu'un qui sait... Tout le monde se construit tout seul, mais toi, plus particulièrement, j'ai l'impression. Il y a... Je me souviens, tu as un peu raconté tes débuts aussi. Tu peux revenir sur ça, sur ton CAP de tailleur de pierre.
Tailleur de pierre. Bon, je suis quand même né dans une famille où la matière intellectuelle est une chose normale. Quoi. Ma mère étudie énormément. Elle adore les livres. Mon père adorait les livres aussi. Il lisait énormément. Donc, je suis pas complètement. On se fait pas tout seul, évidemment. Puis en plus, bon, dans le milieu de la psychiatrie, de la psychanalyse, c'est quand même des gens qui pensent.
Ta mère, elle est psychiatre ?
Ma mère, elle est psychanalyste et psychologue pour enfants. Mon père travaillait dans une clinique psychiatrique, et c'était la clinique psychiatrique qui est un peu le même modèle que la Borde, où travaillait Guattari. Donc j'étais quand même entouré de gens spéciaux et qui avaient l'habitude de penser. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu une scolarité. J'ai détesté l'école dès le début. Donc, j'ai fui le plus rapidement possible. Enfin, j'ai fui. Oui, j'ai fui. J'ai fui doucement à l'intérieur. Non, parce que c'était pas vraiment une fuite. C'est plutôt comme je m'ennuyais énormément. Et je trouvais ça la chose la plus ennuyeuse qui existe. Je pense que ça, c'est plutôt... Ça s'est dilué, quoi. Une fuite, c'était pas une rupture, c'était pas un con. Je suis pas un rebelle. Non, simplement, à force de désister, ils ont plus voulu de moi. Donc.
Ah, tu t'es désisté, quoi.
Ouais. Oui, tout,
un
depuis
peu
le début.
Oui,
exactement. Oui, ça me va bien. Ça. Voilà. J'aimerais mieux pas. Il faut faire ça, oui, mais j'aimerais mieux pas. Et ils sont arrivés à un moment donc je ne pouvais plus continuer la scolarité normale, donc j'ai dû choisir une autre voie qui était à ce moment-là la voie de rattrapage, c'était un peu les travaux manuels. Moi j'étais très bon manuellement et j'ai choisi le métier que j'aurais dû faire officiellement en une heure devant la directrice. Il y avait un grand carnet avec tous les métiers, elle me disait menuisier, non, pas trop, serrurier, non, ça m'intéresse pas trop. Puis je suis tombé sur tailleur de pierre, ça. J'avais déjà fait un essai.
Tu avais fait un essai où ça ?
Chez des copains qui étaient tailleurs de pierre, sculpteurs.
Toi, tu es originaire d'où ? Tu avais toute ta scolarité ?
Blois.
De Blois.
enfin, le village où j'ai habité, c'était Sœur, qui est un village de 200 habitants, mais c'est à côté de Blois, dans la Sologne, viticole.
Tu as fait ta scolarité à Sœur.
Bah, tu sais, c'est des petits villages, donc tu fais des scolarités en différents. Plusieurs villages. Ouais, ouais. La taille de pierre, j'ai fait ça à Orléans, à Saint-Jean-de-Brie, c'était l'internat.
D'accord. Et par la suite ?
Bah après, à 16 ans, le jour de mes 16 ans, j'ai arrêté. Parce que c'était l'école était obligatoire jusqu'à 16 ans.
T'as attendu 16 ans,
quoi. Ouais. Ça se passe. Et puis après,
mais ça fait... te plaisait ou pas du tout ? Enfin, de tailler de la pierre ?
C'est la première fois que j'étais un bon élève. Oh, plutôt très bon élève. Parce que c'est naturellement, je savais faire ça. Mais la partie de la taille de pierre, après tout le reste, j'ai continué la voie. Mais bon, même l'internat, on était 800 garçons, adolescents, tous ensemble. Tous adolescents. Un peu l'enfer. Non, ça m'a pas trop.
Ouais. Et
cette partie-là ne m'a pas plu.
Et après l'internat à Orléans et la taille de pierre.
Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, j'ai fait plein de choses différentes.
Mais t'as pris des boulots ou t'as...
Ouais, bah,
déjà
oui,
à l'époque tu t'intéressais à la littérature, etc. Enfin, tu vois, est-ce que
c'est... Écrire, en vérité, moi je voulais être écrivain quand j'avais entre 7 et 10 ans. J'ai écrit énormément et je suis nul en français, en orthographe. Et j'avais un professeur qui était un excellent professeur. Et qui me laissait écrire et qui lisait tout ce que je lui donnais. Parce que pratiquement tous les jours, j'écrivais des contes. Puis après, quand j'ai changé d'école, j'ai eu des professeurs beaucoup moins patients qui trouvaient que c'était... qui me disaient que la première chose avant d'écrire, c'était de connaître l'orthographe. Donc là, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Donc ça, j'ai abandonné pendant longtemps. Après, j'ai un grand-père qui était artiste, qui était peintre. Mon père était céramiste. Donc moi, le côté artistique, c'était un truc... parfaitement naturel, donc j'ai toujours fait ça. Après je l'ai fait plus sérieusement plus tard, quand j'avais 16 ans, j'étais plutôt fête, drogue, pétard, alcool.
Donc t'as suivi un peu la voie adolescente
normale, on va dire.
Et de là jusqu'au voyage, comment est-ce que le Mathia qui part au Cap-Vert, etc. Mm-hmm. Je sais que t'as pas mal bourlingué aussi.
Bourlinguer.
Non.
Je sais pas, c'est. Enfin, en plus, je sais pas, bourlinguer, c'est pour moi, c'est un peu, bourlinguer, c'est un peu un mot des années 70, des gens qui avaient des,
oui, bourlinguer,
des difficultés. Enfin, où c'était encore assez difficile de voyager. Donc, ouais, voyager ouais. Maintenant, c'est un truc relativement facile.
T'as commencé à voyager il y a une vingtaine d'années.
Ouais. Ah oui. Bah, la première fois, en fait, la première fois que je suis sorti de France, j'étais au Burkina Faso.
Tout ça,
moi, j'avais 22 ans. Ouais. Mmh. Non, avec une copine au début, les deux premières semaines, puis après tout ça. Et c'est pratiquement tout seul parce qu'on ne s'est pas trop vu. Donc. Et là, je suis resté 3 mois et demi.
Ouais. Et après le Cap-Vert ou
Non, après j'ai été plusieurs fois en Afrique.
J'étais francophone encore à la
francophone, base. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas, avant d'arriver au Portugal, je parlais pas un mot ni d'anglais, ni de rien du tout.
T'es complètement francophone à la base.
Oui, complètement francophone.
T'es devenu lusophone.
Oui.
Mais c'est marrant parce que moi, quand je t'ai connu ici, j'avais l'impression déjà que tu avais baigné un peu dans le portugais, mais surtout via
les immigrants.
Ouais,
pas du tout. Non. En fait, je connais... Bon, j'avais... En fait, quand j'apprenais la taille de pierre, c'était en deux sections. Il y avait les tailleurs de pierre et puis il y avait les maçons dans la même classe. Donc il y avait beaucoup de fils de Portugais qui apprenaient la maçonnerie pour reprendre le travail des parents et quelques-uns en tailleur de pierre. Je les ai côtoyés à ce moment-là, mais bon, j'ai pas repéré qu'ils étaient portugais. Enfin, on ne parlait pas de ça, d'ailleurs. J'ai des Français comme les autres. Non, j'ai pas connu tellement de Portugais en France.
Ouais. Et donc le Cap-Vert pour toi, les expériences que tu as eues comme ça de voyage dans les pays lusophones, après je sais que tu es parti en Angola, Je ne sais pas si tu es
en
Mozambique, etc. Mais j'ai l'impression que le Portugal, c'est un peu. C'est pas vraiment une étape. C'est peut-être une étape de fin. Enfin, avec toi, j'ai jamais l'impression que tu arrivais au bout de ton périple, mais. J'espère pas non plus. Non, de ton périple géographique. Pas de vie, bien sûr, mais j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi. Que tu vas pas en rester là, quoi. Que tu vas peut-être bouger, peut-être le Brésil ou je ne sais quoi.
Je vais souvent au Brésil maintenant. Ouais. Bon, il y a une chose que. Bon, avant, je voyageais beaucoup par. J'aimais bien l'idée de voyager pour pas revenir en arrière. Donc j'allais dans un endroit et puis ma grande idée c'était de rester dans l'endroit où j'arrivais. Donc quand je suis allé au Portugal, c'était un peu. J'avais un peu cette idée qui s'est concrétisée après, parce qu'en plus j'ai rencontré. Femme avec qui j'ai vécu, donc ça s'est concrétisé comme ça. Au Cap-Vert aussi, d'ailleurs.
T'as rencontré quelqu'un aussi avec qui tu as vécu ?
Je pense que c'est quand même le. Ça... La géographie, ça suffit pas, il faut rencontrer des gens quand même.
Ouais, c'est ça.
Enfin bon, la géographie et les gens, ça fait partie du même.
Et t'emmènes des lectures avec toi ou tu fais des lectures in situ? C'est-à-dire, est-ce que tu... C'est pour ça aussi que, bon, on n'en a pas reparlé, mais je te parlais un peu de tes grandes références littéraires ou philosophiques, ou est-ce que cette question elle a un intérêt pour toi ou pas aussi?
J'emmène toujours une bibliothèque avec moi que je ne lis jamais. C'est comme j'emmène beaucoup de matériel pour dessiner, tout ça, en fait, en général, je ne fais absolument rien. Dans les voyages courts, parce que en fait, c'est pas très adéquat. Enfin, j'aime bien lire dans une bibliothèque, chez moi. Bon, quand je suis en train de voyager, c'est mieux quand même d'avoir les yeux sur ce qui se passe plutôt que les yeux dans un bouquin. Donc,
ça peut être très agréable, ceci dit,
de
lire un bouquin que tu as acheté, Orléans, et commencer à le lire au Burkina Faso.
J'ai eu des bonnes rencontres comme ça. Et souvent qui n'avait rien à voir avec l'endroit où j'étais. C'est-à-dire, par exemple, je me souviens d'avoir lu un livre qui s'appelait Yo al Supremo, qui est un Sud-Américain qui s'appelle Roa Bastos, ouais, qui est uruguayan, nicaraguayan, jeune aussi. Et j'ai rencontré ça sur un marché à Bobo Dioulasso. C'était un des seuls livres qui... Alors, il y en avait un nombre d'exemplaires incroyable. C'était un des seuls livres qui avait... Parce que le reste, c'était souvent des livres d'école. Donc j'ai acheté ce livre et j'ai lu ce livre là-bas, qui était assez étonnant. Ça faisait une espèce de sensation de familiarité avec l'univers du Burkina Faso. Et en même temps, complètement distant. Étonnant.
Oui, l'Amérique du Sud, l'Afrique.
Ouais. Oui, surtout que c'est l'histoire d'un dictateur, et puis c'est un réalisme magique. Et là, bon, j'étais en plein milieu d'un village en Afrique, au Burkina Faso, où je me suis aperçu peu à peu que les gens vivent quotidiennement le côté magique des choses. C'est ultra présent. Voilà.
Quand tu dis magique des choses, c'est quoi?
Je sais pas. Bon, par exemple, les gens me disaient ici on meurt jamais de vieillesse. C'est toujours quelqu'un. Tu meurs toujours de quelqu'un qui t'a envoyé un sort, un sortilège ou quelque chose comme ça.
Même si tu meurs à 102 ans.
Ouais. Sauf que tu as résisté plus longtemps à tous les sortilèges qu'on t'a envoyé. Ça n'existe pas. Tu meurs toujours de quelque chose contre toi. Donc ils ont. Il y a une espèce de paranoïa généralisée. Parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des sacrifices. Alors il ne faut pas mettre les pieds sur le sacrifice, il ne faut pas marcher sur le sacrifice. Il y a toujours des signes qui sont autour de toi, qui te préviennent de quelque chose qui pourrait arriver. Là, c'est quand même un univers extrêmement. Bon, ils ne te le disent pas tout de suite, peu à peu. Mais
Parce que tu peux peut-être aussi être. Faire partie d'une histoire, tu vois, imaginaire, ou sacrifice quelconque, enfin, tu peux être perçu comme comme un étranger qui fait part d'un sacrilège, d'un sortilège. Ouais. Enfin, je ne sais pas, tu vas être amené
Non, parce qu'il disait souvent que les Blancs, ils étaient un peu en dehors de cette histoire, parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas très bien avec les Blancs, donc c'est plutôt une histoire entre eux. Quoi.
D'accord.
Et après, ils ont une espèce de pudeur à parler de ça aux Blancs aussi, parce qu'on leur a toujours dit que c'était des conneries, donc forcément, ils n'ont pas tellement envie de le révéler tout de suite d'une façon. Donc, a priori, ils ont tendance à dire « Ah non, ça c'est rien ». Et puis après, quand tu t'informes, et qu'ils ont confiance en toi, là, ils commencent à rentrer plus en détail dans cette. En plus, moi, j'avais été deux fois de suite, donc avec un intervalle d'un an. Donc, après, la seconde fois où je suis revenu dans le même endroit, ça fait un lien qui était assez fort. C'est marrant parce que c'est les références biographiques. C'est un peu c'est un truc qui t'accompagne, quoi. C'est comme des gens que tu connais, en fait.
Un peu des gens de ta famille. Quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est un peu
des oncles, des tantes.
Voilà. Exactement. Donc c'est un peu. C'est toujours un peu curieux de parler des influences. Ouais. Non, et en plus, parce qu'il y a des. Par exemple, il y a des écrivains que j'aime bien pour un livre. En plus, moi je suis pas un académicien, alors je peux pas dire. Je connais un écrivain du début jusqu'à la fin. Par exemple, j'adore Conrad. Mais je ne suis pas du tout Conrad. Bon, c'est vraiment un écrivain que j'aime beaucoup. C'est peut-être celui que j'ai lu le plus. René Dommal, qui a un livre qui m'a beaucoup influencé. Mais tu vois, bon, il a écrit deux livres dans sa vie. Le roman petit. Les batailles, par exemple. J'ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, en plus, j'ai très peu de mémoire, donc je ne me souviens pas des noms. Je lis beaucoup de choses que j'oublie. C'est pour ça que je les garde avec moi, parce que j'aime bien les refeuilleter, je redécouvre.
Quand tu dis que tu n'as pas de mémoire, quand tu les redécouvres, tu as l'impression de les découvrir pour la première fois.
Non, tu te souviens toujours, il y a des réminiscences des choses qui reviennent, mais c'est quand même. Je suis assez fréquemment. On me dit, le livre que j'ai joué, je l'ai lu, mais alors. Qu'est-ce que ça racontait ?
Tu crois que c'est une bonne chose, ça ?
Ah non, j'aimerais mieux m'en souvenir.
Non, mais est-ce que tu crois que c'est une bonne chose ?
De ne pas avoir mémoire, ouais. Je pense que ça peut être utile pour certaines choses. C'est pas mal des fois, oui.
Et pour les références biographiques, ce qui est de.
C'est plutôt. Moi non, ça ne me dérange pas personnellement, parce que en fait je me souviens ou d'une atmosphère, ou d'un moment quand je l'ai lu. Après dans une conversation, c'est un peu plus chiant, parce que je suis toujours en train de dire celui qui. L'autre qui a écrit le. Donc ça limite un peu le. Mais bon, c'est seulement pour ça. Sinon. C'est pas un exercice que j'ai fait. Ouais. C'est pas un exercice que j'ai dû faire obligatoirement. Donc c'est pas un truc qui m'est venu naturellement de me souvenir des références. Donc j'ai pas ça.
Et le dessin, c'est pareil, t'as pas de référence comme ça ou. Est-ce que tu as eu le même rapport au dessin que tu as eu à l'écriture, par exemple ? Est-ce que tu as aussi commencé à dessiner de 7 à 10 ans compulsivement,
compulsive. Mais alors, je ne suis pas du tout un compulsif. Et je crois que je n'ai jamais été. C'est-à-dire que j'ai dessiné
parce que
quand j'étais môme. Mais
artistiquement parlant, tu dessines, quoi. Enfin,
oui, en ce moment, oui. Mais avant, j'ai fait beaucoup d'installations et je dessinais pas tellement. Mais le dessin, je pense que c'est peut-être la pratique que j'ai fait depuis le début, en arrêtant de temps en temps. Plus régulièrement. Et je pense que c'est peut-être ce qui me rapproche le plus de l'écriture. C'est vraiment une pratique que j'associe directement à l'écriture. Et je me suis remis beaucoup à dessiner à partir du moment où je me suis remis à écrire.
C'est
un peu deux choses qui vont en parallèle.
Et tes dessins, tu les. C'est des choses qui sont non seulement en parallèle, mais qui s'accouplent à tes. Parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a. C'est les deux versants d'une même
ouais,
pièce.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Tes dessins sont assez illustratifs, en fait, j'ai l'impression, de tes textes. Et moi, ce que j'ai retenu de cette
pièce. C'est-à-dire que c'est. Parce que ça peut être dans les deux sens. C'est vrai que des fois, j'écris et ça me donne des idées de dessin. Mais des fois, je dessine et ça me donne des idées de texte. Donc, des fois, ce sont les textes qui sont illustratifs des dessins.
Et puis, parfois, tu écris sur tes dessins aussi.
Oui, souvent.
Donc, les deux choses, parfois, ouais, sont carrément sont associées. Associées. Ouais.
Mais les textes qui sont sur les dessins, souvent, n'ont rien à voir avec le dessin.
D'accord.
Donc, c'est plutôt des prises de notes. Souvent, je faisais ça quand je dessinais, par exemple, pour le premier livre que j'avais fait, le logo juste après la virgule. Presque tous les dessins ont des textes parce que c'est des dessins qui ont été relativement longs à faire et en même temps j'écoutais des programmes de radio ou de philosophie où je prenais les notes directement sur le dessin. Donc ce qu'on voit sur le dessin décrit en fait c'est plutôt référencé au moment du dessin.
Et tu penses que ça n'a rien à voir
Je trouve que ça a à voir, ouais. Mais je pense que c'est une ligation très... Oui, c'est pas illustratif. C'est pas facile de reconnaître dans le texte.
On parlait de bataille et de maçon, d'André Masson.
Ah oui.
Je te posais la question. Bon, c'est pas vraiment une question, mais est-ce que ça t'est passé par là? Ça t'a traversé l'esprit, dans ton travail, cette liaison maçon-bataille, texte?
En fait, maçon un petit peu, bataille un petit peu aussi. Parce que encore que j'ai pas... Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à bataille et lui bataille, mais en fait ça m'est revenu avec parce que j'ai utilisé des crayons de couleur et l'unique artiste que je connais à ma connaissance qui travaille vraiment avec des crayons de couleur, c'est Klossowski.
D'accord.
Pierre Klossowski.
Qui a écrit. Bien sûr. Ouais, il a participé d'ailleurs.
Ouais, et qui a fait des dessins sur les livres de bataille.
Ouais.
Qui a illustré les livres de bataille, histoire de l'art. Et donc, il n'y a pas longtemps, je me suis remis à dessiner avec cette technique. Donc, je suis retombé sur Acéphale. Mais c'est le texte que j'avais écrit sur de l'homme sans tête, c'était bien plus... C'est plus ancien, c'est l'année dernière.
Tu connaissais pas Acéphale avant?
J'en avais entendu parler, oui. J'en ai peut-être lu. Mais je connaissais les dessins de Masson. Mais... Ça faisait longtemps. C'est pas directement ça qui m'a fait penser ça. L'homme sans cabeça, ça vient. L'homme sans tête, ça vient d'un personnage du Sertão brasileiro, qui est comment s'appelle? Lampion. Lampion, qui est un bandit du grand chemin. C'était une espèce de personnage ambigu qui est moitié un héros, moitié une espèce de... Enfin, où on le déteste, où on l'adore, et qui était... C'était Lampion et Maria Bonita, qui sont deux personnages, un peu les... Comme aux États-Unis, les héros du banditisme américain.
Bonnie and Clyde.
C'est un peu les Bonnie and Clyde du Brésil. Et ils ont fini tous décapités.
Maria Bonita et...
Et Lampion. Lampion, parce qu'il avait des lunettes rondes. C'était un cangaceiro. Oui, il était le cangaceiro le plus connu. Surtout qu'en plus, il a été filmé. Donc il se faisait beaucoup photographier. Il était assez, comment on dit, vaidoso en français.
Et de Lampion à l'homme sans tête, il se faisait appeler homme sans tête aussi?
Non, il s'est fait décapiter. Il a fini sans tête.
D'accord.
En fait, je faisais une association avec ce personnage, un autre livre sur le Sertão, qui est Euclide de Cunha, où il raconte qu'à la fin de la bataille de Canude, qui a été une grande bataille brésilienne, la grande bataille, qui a instauré la République, mais qui est un grand massacre d'instauration de la République, où tous les prisonniers ont été décapités à la fin de la bataille. Parce qu'ils pensaient que ceux qui ont été décapités étaient très, très catholiques. Enfin, c'est catholique.
C'est une histoire que tu racontes dans ton livre.
Ouais, ouais.
Pour la montée de leur âme aux cieux.
Voilà. Ouais. Et on pensait que les gens qui étaient décapités n'allaient pas au paradis. Même pas au ciel. Mm-hmm. Donc c'était l'outrage le plus sévère qu'il y avait.
Et cette histoire, tu la reprends donc dans ton texte. Et ton texte aussi est très, très sexué. Et c'est, ouais. D'ailleurs, Bon, c'est l'homme sans tête qui, mmh. qui m'a ramené à Bataille, mais c'est aussi l'esprit très sexué, mmh. très clitoridien, comme tu dis.
Ouais, géométrie clitoridienne.
Oui. Tu veux en parler un petit peu ou... Parce que
ouais, c'est marrant, mais
de bout en bout, il y a, c'est très sexué, mmh. géométriquement sexualisé.
Mmh. Oui. Je sais pas trop quoi dire. Je sais pas. Ouais, c'est des moments dans les textes. Bon, en plus l'interview, la fausse interview
oui,
que je fais.
Pardon, excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette
bon,
alors,
donc
histoire,
c'est deux. En fait, pour faire l'exposition, le galeriste m'a demandé de faire une interview. Et moi, j'aime pas tellement faire d'interviews, comme ça se voit aujourd'hui. Et donc j'ai dit que je ne faisais pas d'interview, mais que je pouvais faire quelque chose, c'était répondre par écrit à la journaliste. Et la journaliste, elle m'a envoyé 4 ou 5 questions, et j'ai répondu en presque 5 pages. Donc elle a tout coupé, et pour en garder juste un tout petit peu, où tout ce qui était plus ou moins intéressant avait disparu. Mais après, ça m'a donné l'idée de faire une fausse interview, qui est une pratique qui est déjà beaucoup utilisée. Mais je me souvenais d'une interview de Glenn Gould, que j'avais beaucoup aimé, qui se fait à lui-même, qui est assez génial. Et je me suis dit que j'allais faire ça. En plus, c'était pratique, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Et je voulais mettre des morceaux de texte que j'avais déjà écrits. Donc j'ai fait une espèce d'interview qui me permettait de pouvoir introduire des textes que j'avais déjà écrits, des histoires que je voulais déjà mettre. Donc en fait, ça, j'ai fait se joindre des textes qui viennent de plusieurs textes sur le même truc. Et comme j'appelais ça géométrie clitoridienne...
Ouais, pourquoi tu l'as appelé géométrie clitoridienne ?
Ben, ça vient du dernier bout de texte qui est la rencontre de la femme géométrique.
D'accord.
Où il y a un moment, le personnage, il tombe dans un rêve, et dans le rêve, il confond clitor, et il y a des associations d'idées.
Je me suis dit que ça venait aussi de l'univers de Spinoza, qui est aussi
sûr.
Très influencé, très géométrique. Ouais. Et...
Ouais, tout à fait.
Tu commences l'histoire d'ailleurs par la difficulté à pénétrer l'ouvrage éthique de Spinoza.
Mm-hmm.
D'ailleurs, une des questions que je voulais te poser, c'est est-ce que tu l'as lu, mais je ne vais pas te la poser.
Pas de souci, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu en entier.
D'accord. Ouais. Et
mais ça, c'est comme on disait au début, alors là, du coup, vu la difficulté que j'avais à le lire, parce qu'en fait, il a une écriture qui est évidemment complètement opposée à la mienne.
C'est
probablement une pensée complètement opposée à la mienne, parce que d'une façon, il est très géométrique, catégorique, mathématique, et moi, j'ai que pas du tout. J'ai pas du tout une pensée comme ça. Ça part dans tous les sens. Donc, j'ai pas l'ambition non plus que ça soit comme ça. Mais j'aime bien cette opposition. Et en même temps, je sens que tout ce qu'il raconte. C'est une philosophie qui me convient relativement bien.
Spinoza.
Ouais. Oui, cette espèce de d'idée un peu. Cette idée d'assez peu d'espace de liberté, enfin pas du tout d'espace de liberté, mais dans cette absence de liberté, on peut faire beaucoup de choses. Où tout vient par nécessité. Ce que j'en ai compris. Hein. Bon. Parce que, en fait, après, ce que j'ai beaucoup fait, comme je n'arrivais pas à lire, j'ai beaucoup écouté sur Spinoza. Bon, j'ai écouté les leçons de Deleuze, et puis après d'autres leçons que je trouvais dans Internet. Donc je connais assez bien par plein de commentaires sur Spinoza. C'était assez étonnant la façon dont je tourne autour du livre, sans jamais arriver. À rentrer complètement dedans.
C'est marrant parce que c'est très sexué comme image aussi, ça.
Ah, mais je pense qu'il y a une association complètement sexuelle avec la littérature. Ouais. C'est marrant comment tu partages un livre, tu le lis. Non, c'est vraiment le truc. Tu le lis au lit, tu l'emmènes avec toi. C'est une espèce d'histoire d'amour à chaque livre.
Ouais, qui se fait, qui se fait pas.
Qui se fait pas, ouais, c'est ça.
En des termes ou en d'autres.
Ouais. Tu peux tomber complètement amoureux. Ouais. Ou alors, amoureux pouvoir... jusqu'à la moitié, et puis après, t'en peux plus.
Ouais.
T'arrives pas à finir.
Ouais, c'est une image assez intéressante, c'est vrai. À chaque livre, une histoire d'amour.
Bon, on dit pénétrer dans un texte.
Ouais, ouais carrément. Ouais, ou. Je sais pas s'il y a d'autres similitudes comme ça dans le langage, mais oui, pénétrer un livre, pénétrer un bouquin. Ouais. J'avais pris quelques notes aussi, mais je sais pas si c'est. Bon, c'était sur Bataille, et des notes qui disent. Qui parle d'une sublime, je ne sais trop quoi, je ne sais plus. Je me suis dit, bon, je vais peut-être en parler. Ça va peut-être faire écho à quelque chose. Infamie suave, j'avais pris.
Infamie suave.
Infamie suave, c'est pour.
C'est Bataille.
Ouais.
Ouais, mais il écrit bien. Lui. Hein? Il écrit bien. Lui.
C'est pas. Oui, mais en même temps, je ne sais pas, infamie suave, tu sais, ce truc un peu toujours sur l'oxymore.
Oui, oui. Les paradoxes.
Ouais, voilà. Affirmations qui se contredisent. Ou...
Ah bah il y avait un livre que j'ai lu, lui que j'ai. C'est peut-être le seul livre d'économie que j'ai lu et qui est le livre de Bataille qui s'appelle. Ah, tu vois la mémoire.
Ouais. Mais d'économie de Bataille.
Oui.
Je me souviens pas du tout de ça.
Ah c'est un livre génial. La part maudite.
D'accord. Ah je l'ai pas lu.
Ah c'est génial.
Ah c'est un livre d'économie.
Ouais. Mais c'est un livre d'économie où il explique. La part maudite pour lui, c'est si encore si j'ai si ma mémoire est bonne et si j'ai bien compris, c'est un peu un espèce d'excès d'énergie. En fait, sa théorie, c'est qu'il y a un excès d'énergie dans le monde, et quand il y a un espèce d'excès d'énergie, elle doit être dépensée. Donc, par exemple, les sociétés anciennes utilisaient le sacrifice pour dépenser cet excès d'énergie. Les sociétés modernes ont utilisé la guerre, par exemple. Seconde guerre mondiale, c'est un excès d'énergie. Et à un moment donné, il faut une dépense brutale, et qui a à voir avec le potlatch. Lui, il fait cette association du fait qu'à un moment donné, on doit donner énormément plus que ce qu'on a, ce qu'on reçoit pour éliminer l'excès, en fait. Et donc c'est tout. Bon, alors lui, en plus, avec une vision marxiste, communiste.
D'accord.
C'est un livre, il y a deux textes. Mais alors c'est assez génial, parce qu'il parle de... C'est ça, c'est... Il arrive à parler d'économie, à parler des Incas, à parler. Et avec une littérature qui est absolument géniale et poétique. Donc il écrit excessivement bien en parlant d'un. Donc ça t'emmène complètement.
Ouais. Toi, tu aspires à écrire bien comme tu l'imagines ?
Non. Non, mais moi, je n'ai pas du tout l'ambition d'être écrivain. J'écris. Et c'est vraiment. J'écris en parallèle avec les dessins. Je pense avoir une ambition plus prononcée pour le côté du dessin, de l'art plastique, où je pense que je suis capable de juger si ce que je fais, pour moi, est bon ou mauvais, alors que dans l'écrit, c'est quand même beaucoup plus difficile.
Ouais.
Ça dépasse.
Et t'as des... je veux pas qu'on parle beaucoup plus, parce que ça, on a déjà beaucoup parlé, mais j'avais... En plus, même pas imaginé de poser cette question-là, je sais pas pourquoi, mais on a parlé de références plus ou moins littéraires et liées à la littérature, et t'as peut-être plus de références, ou est-ce que t'en as artistiques ?
Artistiques ?
Ou je sais pas, j'imagine même théâtrales, ou enfin dramaturges, ou artistes plastiques, ou plasticiens, ou...
Plasticien.
Je sais pas, enfin, est-ce que t'as des un peu comme... Ouais, des références comme ça, un peu incontournables, qui te suivent depuis,
ouais.
Je sais pas, comme Masson, par exemple. T'avais parlé de
Masson. Klosowski, c'est une référence que j'aime bien. Mais je peux pas non plus dire que ça soit vraiment une... J'aime bien certains artistes comme ça. J'aurais plutôt des références à l'art... Non, mais la musique, non, pas trop. Je suis pas un connaisseur de musique. mais plutôt un art plus ancien, plutôt du siècle 18e siècle.
C'est, par exemple.
Par exemple, il y a au 18e, il y a une grande partie de l'art qui est un truc qui m'a beaucoup fasciné, qui sont tous les arts liés aux sciences, donc d'illustration scientifique, par exemple. Un artiste que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, mais enfin, bon, peut-être ça m'influence beaucoup moins maintenant, mais qui faisait des planches anatomiques, qui s'appelle, c'est un français, alors le nom je ne vais pas m'en souvenir, et qui avait inventé une technique de gravure, ils sont incroyables, avec les fonds verts un peu ocre comme ça. C'est celui qui a fait un dessin qui s'appelle l'ange de l'anatomie. Il y a une femme qui a le dos ouvert en deux comme ça, puis ouvert, on dirait que ça fait deux ailes. J'aime bien certains artistes comme ça, c'est plutôt des apax. Des
ah, espèces. Ça, t'aimes bien ça.
Oui, oui c'est vrai, oui. Ouais. Je l'utilise beaucoup. Oui. Des, comment ça s'appelle ? Qu'est-ce qui est comme synonyme de apax ?
Oh, ben, l'apax, c'est bien, tu peux le garder.
Oui.
Et donc, tu citerais ça comme exemple, les illustrations anatomiques du 18e.
Oui, par exemple. Mais j'aime bien les... Ah, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué à un moment donné. Les icônes, mais aussi l'art éthiopien, des parchemins. Quand j'habitais à Paris, j'allais au Louvre, je voyais toutes les antiquités. J'aime bien Delacroix, j'aime bien Géricault, j'aime bien... Moi, la peinture, ça m'a beaucoup marqué. Je suis un grand...
T'es un grand fan de peinture. Ouais.
Jusqu'au siècle XX, oui. Là, j'ai plus de difficultés si je devais trouver le nom d'un artiste contemporain qui m'a beaucoup influencé. Moi. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais un personnage, enfin un artiste... sur lequel je pourrais dire, celui-là vraiment, plutôt des œuvres que j'aime bien.
Tu pourrais en dire quelques-unes, ou en citer quelques-unes
Par exemple, quand j'ai commencé à connaître un peu les artistes contemporains, parce que quand j'étais môme, je connaissais surtout les artistes modernes, bon, Picasso, Chagall... Jouant en gris, et toute cette époque-là. Et ensuite, les premiers que j'ai découverts en France qui m'ont un peu... c'était les nouveaux réalistes. Par exemple, Niki de Saint-Phalle, Tinguely.
Ah, tu citerais plutôt ceux-là
Oui, je me souviens de choses qui m'ont marqué quand
c'était
j'étais...
C'était Niki de Saint-Phalle et Tinguely.
Surtout...
Bonnie and Clyde, quoi.
Ouais. Ben, surtout la première période de ce qu'ils ont fait, à présent... Je dirais pas la même chose, mais... Ah, c'était peut-être le plus spectaculaire, le plus facile. Puis il y avait aussi les supports surface. Il y a des choses que j'aimais bien. Et je sais plus comment il s'appelle, celui qui faisait les armes en bois. Oh, moi, je suis encore pas capable de passer 2 heures devant un tableau.
T'es encore capable ?
Oui. Alors que je suis pas capable de passer 2 heures devant une vidéo.
D'accord.
Ni devant, enfin, beaucoup plus difficile.
Ni devant un bouquin.
Ah, 2 heures. Ouais, si, devant un bouquin, si. Ah, si. Si, mais un tableau, ça bouge pas. T'as un livre, ça évolue. Tu tournes les pages et puis il se passe des choses. Un tableau, principe.
Et qu'est-ce que tu fous 2 heures devant un tableau ? C'est ma dernière question.
Qu'est-ce que tu fous ? Tu t'endors ? C'est bon.
Non, je plaisante.
Oui, tu... Je sais pas.
Tu pourrais
c'est ça, mais c'est...
Tu pourrais
c'est
ça qui est génial. Par exemple, de tout ou de rien qui se soit passé devant une œuvre, par exemple. Tu te souviens d'avoir une expérience comme ça où tu as vécu des choses et tu as eu besoin de 2 heures pour que ces choses s'expriment en toi ?
Non, mais je sais pas si ça exprime quelque chose. Je sais même pas si tu es en train de penser. Je crois que c'est plutôt... C'est la même... Pour moi, c'est la même sensation que... C'est peut-être ça. c'est du même niveau que d'être devant un paysage incroyable. Tu t'assois et tu te laisses complètement imprégner par toi, ou la volonté de faire partie de ça. D'être. Je pense qu'il y a des fois il y a des peintures qui ont cette capacité de où t'oublies, t'es juste dans l'admiration et dans la contemplation.